service des sports est au programme ce soir de Surpris par la nuit. Xavier Delaporte propose un état des lieux du dopage réalisé par Pierre Villers. À 23h30, Jean Bollack sera mon invité dans Du jour au lendemain. Il publie une nouvelle étude sur Parménide aux éditions Verdier.
Surpris par la nuit. Depuis 2 ans et demi que le service des sports existe, jamais nous n'avons traité frontalement du dopage. Bien des fois, il a été évoqué par des sportifs, par des entraîneurs. Il faudrait mieux dire d'ailleurs par d'anciens sportifs et d'anciens entraîneurs, mais aussi par des médecins et des journalistes. Bref, il a presque toujours été présent, mais sans jamais que nous prenions le temps de le replacer dans une perspective à la fois plus médicale et plus historique. Or, l'année 2006, en matière de sport en tout cas, a été à tel point marquée par le dopage qu'il nous semble nécessaire de faire ce travail. Cyclisme, athlétisme, tennis, football dernièrement, ce sont tous les sports majeurs qui ont été confrontés à un moment ou à un autre à des affaires de dopage au cours de cette année. Et ceci à l'échelle du monde, 2 joueurs de cricket pakistanais ayant été contrôlés récemment positifs à un produit interdit. D'où toute une série de questions qui se posent. Le dopage a-t-il toujours existé? Quelle est l'évolution des produits? Pourquoi certains sports, le cyclisme par exemple, sont-ils plus touchés que d'autres? Les instances sportives mettent-elles vraiment tous les moyens dans la lutte contre le dopage? La médicalisation des sportifs de haut niveau n'est-elle pas d'emblée une forme de conduite dopante? Alors, pour tenter de répondre à quelques-unes de ces questions, il nous fallait quelqu'un qui connaisse très bien le milieu sportif, qui y ait travaillé, mais qui ait aussi su s'affranchir du silence assez généralisé. Cette personne, c'est Jean-Pierre de Montenard. Jean-Pierre de Montenard est médecin du sport, chargé des contrôles antidopage sur des courses cyclistes importantes dans les années 70. Il y découvre les pratiques des coureurs, de leur entourage, qu'ils soient sportifs ou médicales, et l'hypocrisie des organisateurs de courses et des instances sportives. Il quitte par la suite le monde du cyclisme professionnel et de l'antidopage officiel pour se lancer dans une lutte tous azimuts. Dans le cabinet où il exerce, dans la presse, en participant au très bon magazine Sport et Vie, et dans les livres dont le dictionnaire du dopage paru aux éditions Masson. Tout en pratiquant assidûment le sport en amateur, ou peut-être précisément parce qu'il le pratique assidûment en amateur, Jean-Pierre de Montenard porte un regard extrêmement critique sur le sport de haut niveau et sur la manière dont il permet, voire organise, dans certains cas, la mise en danger de ses pratiquants. Histoire de dopage, c'est le sujet du service des sports.
Ah, voilà.
Le PO, ça vous permet d'être là en deuxième mi-temps, alors que les autres sont plus là. Les anabolisants vous permettent de battre la course aux opposants, mais si vous êtes un attaquant, l'arrière, etc. On va vous permettre de sauter plus haut pour taper la tête, on vous permet de taper plus fort pour tirer au but, tirer au but.
De Montenard, bon, on pourrait dire que c'est quand même une année un peu compliquée pour le sport. Si on fait un bilan, puisqu'on est à l'heure des bilans avant de commencer 2007, alors bon, je prends juste quelques cas comme ça. En cyclisme, le Tour de France a été catastrophique, puisque avant même son début, plusieurs des favoris ont été évincés pour dopage, puis le vainqueur a été convaincu de dopage. Justin Gatlin, en athlétisme, qui est multi-recordman du monde du 100 mètres, a lui aussi été convaincu de dopage. Et puis dernièrement, en décembre, on apprenait que sans doute 4 des grands clubs espagnols étaient mêlés aussi à des affaires de dopage, qui est d'ailleurs lié à ce médecin qui était lui-même à l'origine de l'affaire de dopage qui avait touché le Tour de France. Alors, face à ça, qui sont que des cas saillants parmi tout ce qui s'est déroulé en une année en matière de dopage. On peut avoir deux interprétations au moins. La première, qui est celle de se dire, c'est pas si mal, puisque enfin les cas sortent. Et puis la deuxième, qui est le revers de la même médaille, c'est peut-être de se dire, c'est vraiment terrible parce que tout est touché. Alors juste, je voulais savoir, pour commencer, est-ce que vous seriez dans lequel des deux camps, laquelle des deux attitudes face à tous ces cas?
En fait, dans les deux cas, il y a un élément de vérité, c'est effectivement l'athlétisme, le cyclisme, le football sont touchés, des cas emblématiques sortent, donc ça pourrait laisser faire croire que la lutte antidopage devient efficace. Et d'un autre côté, il faut pas rêver. Quand on suit le sport de haut niveau depuis plus de 30 ans comme moi, on sait très bien que les suivants sont passés à travers le contrôle. Donc c'est catastrophique pour le public, pour tout le monde, de savoir que le sport de haut niveau est hyper gangréné par le dopage, et c'est pas l'an 10 le premier qui a triché seul dans le Tour de France, c'est le seul qui a été pris, ce qui est totalement différent. Les autres se sont moins fait avoir et ont été plus malins pour passer à travers le contrôle. Et en réalité, si l'an 10 s'est fait prendre, c'est qu'il prenait la testostérone sous forme de patch ou de pommade, de gel. Il se passait ça tous les soirs sur le... En tout cas, son masseur lui passait le gel sur les épaules et l'abdomen. Et en raison de sa défaillance à la toux souir, l'élimination du produit a été modifiée et a dépassé le seuil fatidique. Et c'est comme ça qu'il se fait prendre. S'il n'avait pas eu cette défaillance à la toux souir, ni vu ni connu. Donc, il se fait prendre par inadvertance. Les autres... J'ai des doutes très forts, pour pas dire plus. Et donc, en réalité, si on élimine l'an 10 du classement du Tour de France, il faut jamais donner la première place au second. Il faut faire comme dans les années 70, où on mettait un X à la place de celui qui était pris. Dans les années 70, par exemple, 67 champions de France professionnels, X. 70 champions de France professionnels, X. 71 champions de France professionnels, X. Deuxième du championnat de France 71 professionnel, X. Il y a des X partout à cette époque-là. C'est ça la vraie réponse. Et de classer X le Tour de France, quel titre?
Et alors là, il y a quand même deux choses dans ce que vous dites. La première, ça veut dire que un sportif qui se fait prendre, c'est juste un sportif qui a fait une erreur dans son protocole de dopage. Enfin, selon ce que vous dites, hein. Et que donc, conséquemment, l'ensemble du peloton, parce que là on parle du cyclisme, mais on pourrait l'étendre à d'autres sports et on le ferait, est dopé.
On peut pas donner une réponse aussi abrupte, mais vous allez voir qu'en fait on arrive à la même conclusion, c'est que il y a différentes façons, et ça c'est important. Encore il y a très peu de temps, un de mes patients avait du mal à croire qu'ils étaient dopés puisqu'ils étaient contrôlés négatifs. Alors, il faut savoir que le but du dopage aujourd'hui, en tout cas depuis une quinzaine d'années, c'est de se doper pendant des phases où on n'est pas en hyperactivité de compétition, où on est en dehors du risque de se faire contrôler, et donc on prend des dopants qui améliorent vos possibilités, et ce dopage va perdurer pendant 15 à 20 jours, sans se doper. Donc au moment de la compétition, on n'a rien dans les urines, on est négatif, et on est dopé. Donc c'est un jeu d'enfant de passer à travers le contrôle, et donc à partir de là, effectivement, on a des résultats voisins de 1, 2 ou 3% sur lesquels s'appuie le milieu sportif, pour dire, voyez, on maîtrise le dopage, ils sont 1, 2, 3% à être très peu, et le reste joue le jeu, quoi, ne triche pas. Alors ça, c'est le premier point, il y a des substances indécelables. Voilà, donc il faut pas rêver, à moins d'être complètement idiot, tous ils sont dans les substances indécelables. Efficace, les deux critères d'une substance pour un sportif de haut niveau, c'est efficace et indécelable. Autre élément, il y a certains produits qui sont pas dans la liste, mais qui sont équivalents à des produits dopants. Il y a certains produits qui sont uniquement destinés à soigner la performance, qu'on appelle des produits borderline. Et donc là, l'ensemble du peloton ou l'ensemble des sportifs est dans ces produits. Si on prend la pharmacie de la Juventus, on trouve en nombre de médicaments, en variété de médicaments, l'équivalent de ceux qu'on peut trouver dans un hôpital d'une ville de 30 000 habitants.
C'est ce qu'avait dit le procureur du procès, ouais.
Oui, pour une équipe de football. Un simple exemple, Lactovégin. Hein, qui est un du sang de veau déprotéiné, c'est-à-dire c'est un produit sanguin qui est utilisé dans le monde du sport depuis les années 70, Les expériences ont été faites en Allemagne en 69 par des chercheurs qui ont démontré que l'ectovégin, en situation d'hypoxie, c'est-à-dire de course en altitude ou d'efforts intenses avec une raréfaction d'oxygène, tel qu'on le voit dans l'école du Tour de France, eh bien l'ectovégin était supérieur aux anabolisants en tant qu'efficacité. On a des témoignages à la Coupe du Monde 86, Harald Schumacher, le goal de l'équipe d'Allemagne, qui va sortir en 87 un bouquin, coup de sifflet, où il révèle le dopage du foot, et qui révèle le dopage de l'équipe d'Allemagne en 86, où ils ont eu 3000 piqûres en 3-4 semaines, dont l'ectovégin, pour lutter contre les effets de l'altitude, puisqu'on est au Mexique en 86. Cet ectovégin, on va le retrouver quelques années plus tard, où le grand spécialiste de la lutte antidopage internationale, Manfred Donicke, met en garde les équipes d'Allemagne en finale de Coupe d'Europe, qui utilisent toujours l'ectovégin. On va le retrouver dans le coffre d'Edith Arumsas, la femme du coureur lituanien qui fait troisième au Tour de France 2002. On va le retrouver dans la voiture de Szabo, une coureuse de demi-fond, champion olympique du 5000, ou en tout cas dans cette distance-là, ectovégin. Et on le retrouve également dans l'affaire Cofidis avec Gaumont et Sasson. Hein. On le retrouve également, pour finir, point d'orgue, dans la valise du fameux docteur Fuentes. Ce produit n'est pas dans la liste.
Pourquoi il n'est pas dans la liste?
Mais ce sont des gens qui luttent contre le dopage de façon anecdotique. Ce sont pas des vrais passionnés. Ils sont là par inadvertance, c'est-à-dire que Pound n'a jamais milité dans sa vie.
Qui est le président de
le patron de l'AMA, de l'Agence mondiale antidopage, qui était le défenseur, faut quand même le rappeler, c'est quand même extraordinaire. C'était le défenseur de Ben Johnson en 88 au moment des Jeux de Séoul.
C'est Séoul, hein.
Où Ben Johnson se fait prendre au sanozolol, un stéroïde anabolisant, et Pound va vouloir faire accréditer à l'époque la thèse que Ben Johnson a été dopé à son insu. Il a dit la phrase sublime, son corps était dopé, mais sa tête ne l'était pas. Et alors après interrogé récemment, il a dit oui, on fait des erreurs dans la vie. Mais c'est lui qui est le patron de l'Agence mondiale antidopage. Donc il n'est pas là par motivation extrême, il est là parce que ça l'arrange. Et aujourd'hui, il a eu raison, puisqu'on connaît mieux son nom, Dick Pound, que Roguet, le patron du CIO. Alors que Pound a été battu par Roguet pour le titre de président du CIO. Donc c'est une revanche extraordinaire pour Pound, hein, battu pour la finale du président du CIO, et qui aujourd'hui est plus connu, a plus de tribunes dans l'équipe régulièrement. Il a une page dans l'équipe pour parce qu'on les journalistes de l'équipe veulent être bien auprès des instances pour avoir des informations.
On va essayer de serrer les questions, parce que dans ce que vous dites, effectivement, il y a le rôle des médias, mais ça, on y viendra. Le rôle des institutions sportives internationales, AMA, CIO, Comité international olympique, on y reviendra aussi. Mais juste, vous avez dit aussi quelque chose qui est assez étonnant, c'est que vous dites, voilà, bon, il y a les produits qu'on n'interdit pas, type l'ectovégin, mais il y a aussi des produits indécelables. Ça veut dire que encore aujourd'hui, il y a des produits dopants qu'on ne peut pas déceler par la série de contrôles qui sont mis en place.
Un autre exemple, qui s'appelle le synactène. Qu'est-ce que c'est le synactène? C'est de la CTH, c'est-à-dire la corticotrophine, c'est-à-dire c'est une hormone qui est sécrétée par la surrénale et qui est une espèce de relais. Si dans le sang, les corticoïdes baissent et les anabolisants baissent, que l'on a naturellement, eh bien, le cerveau envoie un message à la surrénale pour lui dire de sécréter plus de corticoïdes et d'anabolisants. Donc, la CTH est apparue dans la pharmacopée française et internationale à la fin des années 60, hein, 69. Dès les années 70, il est dans le peloton et ailleurs, puisqu'on en fait même, il a un surnom, c'est la friandise du docteur X, donc je ne donnerai pas le nom, mais la friandise du docteur X. Et c'est ce fameux ACTH. Eh bien, on est en 2007, il est toujours indécelable.
Mais ils sont indécelables parce qu'on n'a pas mis en place les moyens de trouver des produits ou, je ne sais pas, des types d'analyses qui permettent de les retrouver, ou ils sont vraiment indécelables?
Non, tous les produits sont décelables. Tous les produits sont décelables dans l'absolu. Le problème, c'est d'apporter la preuve que au moment du contrôle, on trouve le synactène. Et donc, on ne le trouve pas. En tout cas, les techniques utilisées ne permettent pas d'affirmer que la personne a pris du synactène. Donc, ils le savent tous dans le milieu sportif. Donc, la lutte antidopage, en fait, en réalité, la lutte antidopage, c'est la labellisation propre les tricheurs. Ça ne sert qu'à ça.
C'est-à-dire ?
Eh bien, depuis 1965, la loi antidopage, les contrôles, etc. Quand un sportif dopé passe un contrôle, il est négatif. Donc c'est la labellisation propre d'un tricheur. Puisque il va monter sur le podium, on va lui serrer la main, le président du CIO, le président de la Fédération Française de Cyclisme, l'UCI, le président du CXA, vont serrer la main du vainqueur, alors que dans son corps, il y a des substances dopantes, et donc il va être labellisé propre, alors qu'il a triché.
Mais à partir du moment où il n'y a pas la preuve matérielle, c'est ça qui est compliqué, c'est que ça obéit quand même au régime de la preuve. À partir du moment où il n'y a pas de preuve matérielle qu'un sportif a pris une substance, a ingéré ou s'est piqué une substance dopante, comment est-ce que vous, Jean-Pierre de Mondenard, vous pouvez affirmer qu'il y a autant de dopage que vous le dites dans le sport? C'est quoi qui vous permet de dire ça? Ce sont les performances, la modification des corps ou ce que vous connaissez du milieu?
Alors, il y a des exemples simples. Pendant des années, vos confrères brocardaient tous les journalistes qui racontaient qu'en Allemagne de l'Est, on se dopait. D'accord? Même on en faisait une affaire politique. Les gens du Parti communiste incendiaient les gens du Figaro qui avaient osé, en traitant le journaliste de videur de poubelle, etc. Alors qu'il avait été enquêté, qu'il avait tout de suite constaté comment ça se passait, grâce à des compromissions, etc. Donc, on savait que le dopage en Allemagne de l'Est était quasi généralisé, et donc les procès qui ont suivi après la mur du chute de Berlin ont bien démontré. Toutes les statistiques de la Stasi ont bien démontré que l'ensemble, 10 000 athlètes, ont été dopés en Allemagne de l'Est. Donc chaque fois, a posteriori, on a des confirmations permanentes. Quand je fais mes enquêtes, j'ai fait une enquête qui est parue en 98 dans le Nouvel Obs et qui a fait la couverture du Nouvel Obs où c'était le Sportu, et j'avais donc questionné depuis des années, des décennies, l'ensemble du peloton qui a fait le Tour de France, et chaque fois que je parlais avec des anciens qui étaient plus en activité, tous, sans exception, m'ont raconté ce qu'ils prenaient. Et tous prenaient. Il n'y en a pas un qui m'a dit qu'il ne prenait rien. Donc, des éléments, des preuves testimoniales, on appelle ça des preuves testimoniales, j'en ai des milliers, quoi. Je veux dire, c'est pas comme ça, en humant l'air du temps, que j'affirme que le dopage est hyper répandu. Pour vous donner un autre exemple, je donnais des cours de médecine du sport parce que j'ai fait mes études de médecine à Toulouse. Et en partant sur Paris et l'INS en début des années 70, j'ai continué pendant 20 ans à venir donner des cours à Toulouse au CLS de médecine du sport. Et un jour, au début, la fiancée de l'international de rugby qui assistait à mes cours était enthousiaste et m'a demandé de venir dîner avant que je reparte sur Paris chez elle. Et elle était l'amie d'un joueur emblématique du 15 de France. Et donc, je participe donc à ce dîner, et au cours de la conversation, parce qu'il m'intéresse savoir comment ils s'entraînaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. Et donc, à un moment donné, je lui dis, vous prenez des vitamines? Il me dit, oui, on prend des vitamines, c'est le médecin de l'équipe de France qui nous les donne pour les matchs du tournoi. Et alors, je lui dis, qu'est-ce que c'est vos vitamines? Et il me dit, c'est du captagon. Alors, qu'est-ce que c'est le captagon? C'est une amphétamine, donc totalement interdite. Et c'est le médecin de l'équipe de France qui leur donnait du captagon pour les matchs du tournoi. Et sa fiancée, dans son dos, en portant le plat à la cuisine, a fait un signe d'incapacité à avoir fait modifier ce comportement. Voilà. Et donc, j'ai pas insisté parce que soit il savait pas que le captagon était réellement une amphétamine, soit il me prenait pour une bille, donc peu importe. En tout cas, j'ai laissé couler. J'ai pas réagi à ce qu'il me racontait, mais il m'a dit, comme on se parle, on était plus près même, il m'a dit, le médecin de l'équipe de France nous donne du captagon. Donc, des amphétamines. On est dans les années 70. Donc, quand j'entends, dans les années 95, avec l'arrivée du rugby professionnel, que le dopage va venir dans le rugby, je tombe raide. Car il est depuis toujours. C'est une histoire d'homme. C'est une histoire de compétition, le dopage. C'est pas une histoire de sport. Le cyclisme ne recrute pas que les repris de justice, que les tricheurs, que les truqueurs. C'est une histoire d'homme face à la compétition. Donc, c'est la compétition qui génère le dopage. Donc, il n'y a aucune raison physiologique, mental, technique, qui empêche un sportif de pas tirer profit du dopage, Et donc, tous les sports sont contaminés, de la pétanque aux fléchettes, en passant par le football,
le cricket,
et en allant à l'haltérophilie. Bien sûr, mais il n'y a aucun sport qui est épargné. Aucun, aucun, aucun. Hey Jim, Jim, just a minute, yeah. I want you to spell for me Sanchez. I want you to spell for me New York, man. Why do you have to spell New York, man? I just want to spell for me New York. Can you do that, man? Sure, man, I can spell New York. Well, go ahead, man. N-E-W-Y-O-R-K, that's New York, man.
Mais comment ça se passe que vous, vous avez beaucoup rencontré de... On va revenir après sur comment vous êtes rentré dans la question de la lutte antidopage, mais vous avez rencontré beaucoup de sportifs, vous avez beaucoup discuté avec eux. Comment ça se passe, l'entrée dans le dopage? Est-ce qu'il y a un moment où le sportif prend des produits dont il sait que ça va améliorer sa performance, ou est-ce que c'est quelque chose juste qui glisse comme ça? Je sais pas, ça peut être un retour de blessure, alors on a besoin d'une accélération, de cicatrisation, de la récupération. Enfin, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a conscience? Est-ce qu'il n'y a pas conscience?
Il y a plusieurs façons de rentrer dans le dopage. Mais effectivement, il faut toujours nuancer. Il y en a qui rentrent après une blessure, il y en a qui rentrent parce qu'ils se sentent pas en forme, ou parce que des exemples simples, notamment dans le vélo, c'est parce qu'ils vont courir une course près de chez eux, et donc s'ils la gagnent, ils sont dans le journal, donc ils deviennent la star du coin. Donc une fois, un exemple précis, un père de famille se déplace et fait au moins 100 km pour venir, puisque je recrute des sportifs qui viennent un peu partout de l'Île-de-France et d'ailleurs. Et donc il vient, alors que d'habitude il venait avec son fils, qui était junior, régulièrement pour faire des tests, pour voir si son entraînement était correct. Il vient tout seul, et il rentre dans mon cabinet, où je reçois les consultants, il rentre comme un conspirateur, il longe le mur, il parle, j'entends rien, tellement il parle faiblement. Il s'assoit sur un quart de fesse, et là il me sort une phrase qui effectivement m'a marqué définitivement, ça c'était dans les années 80. Il me dit, docteur, je sais que vous n'allez pas être d'accord, mais je voudrais un produit interdit. Parce que son fils, qui était champion junior, avait le grand prix du coin de sa rue, et il voulait absolument gagner. Voilà. Un autre me sort, appelle au téléphone et dit, docteur, j'ai fait une bêtise. Attendez, il a 40 ans le type. Hein. J'ai fait une bêtise, vous allez me gronder. Tel quel, hein, il me parle. Et voilà, je me suis dopé pour le Grand Prix du coin. Et depuis, je suis mal, j'ai l'hypertension, etc. Donc, il voulait être rassuré, voir éventuellement... alors, je le reçois en consultation, et là, il me raconte qu'il a fait une chute, qu'il est resté 3 semaines sans s'entraîner, et que la course en question déterminante pour sa promotion médiatique du coin, arrivant, un copain lui donne du tonédron, c'est-à-dire une amphétamine, et il en prend que la moitié de l'ampoule, il se fait la piqûre, donc il finit deuxième, et puis à partir de là, bien sûr, tout se dégrade, car en réalité, il s'est pas entraîné pendant 3 semaines. Donc, physiologiquement, il avait perdu de façon considérable son aptitude. Donc, de faire des compétitions sans avoir été entraîné correctement, eh bien là, il abîmait son corps. Donc, il payait, il s'est arrêté, quoi, il a repris son entraînement progressivement, il a arrêté de faire des courses pendant quelques temps, et puis tout est revenu dans l'ordre. Oui, pour vous montrer qu'il y a différents aspects pour entrer dans le dopage, mais la principale, c'est le syndrome du loft.
C'est-à-dire
qu'ils sont dans un milieu où tout le monde fait pareil. Donc, de se faire des piqûres, de prendre des pastilles, ça fait partie comme de mettre un bidon dans le porte-bidon, de prendre un boyau de rechange quand on va s'entraîner, etc. Donc, ils n'ont pas la perception de tricher. Ils se soignent. Donc, ça vient progressivement. C'est le syndrome du loft, c'est-à-dire les dirigeants. Voilà, si maintenant tu changes de catégorie, là, il faut te soigner, il faut prendre des trucs, des vitamines. Alors, bien sûr, on utilise le mot vitamine. pour masquer les choses. Alors au début, c'est effectivement des vitamines. Et puis après, il arrive que la compétition est importante. Donc là, il faut faire une piqûre. Et puis dans la piqûre, ça peut être de la vitamine B12, mais ça peut être aussi des amphétamines, ça peut être des anabolisants. Donc à partir de là, ils font plus de différence. Comment voulez-vous qu'un garçon de 18-20 ans fasse la différence du produit qui lui rentre dans la fesse?
Non, mais en revanche, il pourrait faire une différence entre l'état procuré par une piqûre. C'est quand même à la portée de n'importe qui de s'apercevoir que tout à coup, on va beaucoup plus vite, on est mieux,
le
col paraît.
Oui, c'est le but. Non, mais donc, de prendre des vitamines, de faire une piqûre, c'est le but d'être performé. Comme tout le monde fait la même chose, vous n'allez pas dominer tout le monde comme vous êtes en train de nous l'expliquer. Vous allez être mieux, effectivement, mais au lieu d'être dans le 30e, vous allez être 20e, et donc petit à petit, vous allez comprendre que pour aller sur les podiums, il faut se soigner. Donc là, c'est la quête d'un gourou, d'un médecin complaisant qui permet d'avoir les produits les plus high-tech et qui permettent d'être plus performants. Voilà, donc c'est la loi du love.
Alors Jean-Pierre de Mondas, ça veut dire que on peut dire que donc pour ce qu'on appelle globalement et vulgairement le sport amateur, donc ce seront des pratiques qui sont plutôt individualisées, à la limite, voyons ça comme ça, et que pour le sport professionnel, ou peut-être l'amateurisme en passe de devenir aussi professionnel, c'est le cas des jeunes par exemple, là on est face à des pratiques que vous qualifieriez d'institutionnalisées, c'est-à-dire avec participation des médecins, tout le monde est très au courant, on n'est plus sur des pratiques individuelles, ou alors est-ce qu'on est sur un mélange des deux, c'est-à-dire sur quelque chose qui est finalement assez pragmatique, c'est selon les cas, est-ce qu'il y a une part d'automédication, puis des ordres de médecins, est-ce que les protocoles sont hyper écrits, c'est ça qu'on a du mal à savoir.
Oui, alors il y a pas une règle unique pour chaque équipe, pour chaque niveau de pratique. En tout cas, pour donner des pistes et des éléments d'information, on a découvert que avec l'affaire Festina, donc l'histoire 98 du Tour de France, où l'équipe Festina est sortie du Tour de France parce que le soigneur a été épinglé à la frontière avec tout un arsenal de dopage. Donc on s'aperçoit, et Bruno Rousset, le directeur sportif, en témoigne, qu'ils ont organisé le dopage au sein de l'équipe. Mais ça n'empêchait pas quand même, notamment Richard Virenc et un autre de ses coéquipiers, un Suisse, d'aller voir un médecin suisse pour compléter ce dopage. Donc ils cherchent toujours le produit qui va faire la différence avec les autres, puisque tous sont avec des produits. Donc il faut ensuite passer un étage supplémentaire pour faire la différence. Mais ce comportement d'équipe médicalisée, il date pas d'aujourd'hui. Il date de décennies. Là aussi, on nous a raconté des histoires pieuses au moment de l'affaire Festina avec les journalistes qui racontaient n'importe quoi. Dans les années 60, dans le Tour de France 1960, un journaliste raconte, Roger Bastide, qui était un immense journaliste au talent reconnu, raconte qu'il rentre dans la chambre de Gastone Nancini, qui était l'un des favoris du Tour de France 1960, et là il voit Nancini allongé sur son lit avec une perfusion dans chaque bras, la cigarette aux lèvres, que son soigneur de temps en temps lui retirait des lèvres, puisqu'il avait deux bras pris, lui retirait des lèvres pour qu'il expire la fumée, et il lui remettait la cigarette. Et dans ces flacons de perfusion, il y avait, on est en 1960, des corticoïdes et des anabolisants. En 1960. Et c'était le médecin de l'équipe italienne qui suivait la course. C'était le médecin de l'équipe italienne. Donc l'équipe Carpano, c'était le médecin de l'équipe Carpano, qui était donc en 1960, qui suivait le Tour de France. Et à la suite de l'accident de Rivière, puisque Rivière, dans ce même tour, va chuter dans un petit col des Cévennes, le col du Perjuré, et va se fracturer la colonne vertébrale et arrêter sa carrière. Et donc, Le dopage va être incriminé dans cette chute parce qu'il prenait du palfium et le palfium a
un inconvénient.
Voilà, ralentit les réflexes, donc ça calme la douleur parce que les efforts intenses, effectivement, ça fait mal et sous palfium, on les sentait moins. Mais en revanche, pour freiner, c'était pas l'idéal. Donc, dans un virage, il est allé tout droit, il est passé par-dessus un parapet et il est tombé 15 mètres plus bas. Et donc, il y a eu un débat quelques jours après à Briançon et l'un des médecins du Tour de France, Robert Boncourt, avait donné un titre qui était quand même prémonitoire, attention champion cobaye. Et là on faisait parler le médecin italien, on faisait parler tout le monde, donc le dopage était organisé dès cette époque, il y avait des équipes. Et dans les années 70, il y avait l'équipe Peugeot qui avait un médecin à demeure et qui leur donnait des corticoïdes à longueur d'année. Donc, de croire que c'est avec l'affaire Festina qu'on est arrivé au dopage médicalisé organisé par des médecins, c'est archi faux. C'est dès les années 60 que le dopage est organisé, et comme souvent, il vient d'Italie. Les Italiens ont toujours été à la pointe du dopage, et de loin, dans l'organisation du dopage.
Pourquoi?
Celui en fait qui a fait pénétrer le dopage à grande échelle dans le Tour de France, c'est Faustocopi. C'est Faustocopi,
ouais.
Qui, le 11 novembre 1942, tente le record de l'heure au Vigorelli, à Milan, sous les bombes, parce qu'à l'époque, la guerre est là. Et les témoins de l'époque, hein, notamment un journaliste de la Gazzetta dello Sport, a fait un bouquin et raconte qu'il a pris 7 comprimés d'amphétamine pour une heure. D'accord? Donc le meilleur de sa génération se dope. Et en plus, toutes les histoires vont se cumuler pour montrer qu'il est abonné aux revues médicales, qu'il a pris la femme d'un médecin, hein, pour l'accompagner en permanence. La dame blanche, c'est la femme d'un médecin, qui est infirmière elle-même. Il arrive aux étapes dans les hôtels à la table au dîner avec un carton rempli de fioles. Donc tous les autres ont les yeux hagards pour voir Copi qui les domine de la tête et des épaules. Bartali fait les poubelles de Copi pour savoir quel est son secret. Donc voilà, Copi est en 52, Copi à la RAI, à la télévision italienne, va être interviewé par un journaliste et là, au cours de la conversation, à un moment donné, il dit « Ceux qui ne prennent pas la bomba, la dynamite, donc c'est le terme classique en France, hein, la charge, ceux qui ne prennent pas la bomba, et c'est les amphétamines à l'époque, ceux qui ne prennent pas la bomba sont des hypocrites. » Le journaliste lui dit, et vous prenez la bomba, bien sûr, et vous la prenez quand? Chaque fois que c'est nécessaire. Et c'est nécessaire quand? Chaque fois que je cours. Donc, la plus grande star du peloton des années 50 se dope systématiquement. Et les autres ont les yeux grands ouverts pour voir ce qu'il prend. Donc, les amphétamines ont pénétré le peloton à vitesse grand V, comme un tsunami, à vitesse grand V, et tout le peloton carbure aux amphétamines. On est dans les années 50.
Je vous parle en direct de cette 17e étape du Tour de France. Le peloton, énorme machine de muscles et d'acier, vient de s'élancer. Monter en danseuse, appuyer sur la pédale, surveiller son braquet. Que d'épreuves pour ces jeunes hommes qui, en attendant l'auréole de la victoire, se contentent de celle de la sueur qui laisse dans son sillage ce trait de musc que connaissent bien les supporters massés le long des routes. Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France, alors ils se défoncent car la ligne est encore loin.
Pourquoi est-ce qu'on parle énormément de dopage dans le cyclisme en particulier, dans certaines disciplines plus que d'autres? Est-ce que c'est affaire de tradition? Est-ce que le cyclisme a une tradition de dopage plus importante que d'autres sports? Ou est-ce que c'est affaire aussi de nécessité? Parce que on améliore plus facilement les performances peut-être d'un sportif en cyclisme avec le dopage qu'un footballeur, où ça tient aussi aux relations d'une équipe, enfin à plein d'autres paramètres. Donc à quoi ça tient cette différence des rapports de dopage selon les disciplines? Parce qu'il y en a quand même une, au moins dans la façon dont il est appréhendé, ou peut-être que c'est la lutte anti-dopage qui fait ressortir plus ou moins de dopage selon les disciplines aussi. C'est une possibilité, peut-être que le cyclisme est en avance dans la lutte anti-dopage et du coup donne l'impression qu'il est plus dopé, je sais pas. Mais est-ce qu'il y a cette différence-là entre disciplines, et pourquoi il y en aurait une?
Non, je reviens à ce que je disais il y a quelques minutes, c'est la compétition qui fait le dopage. Donc il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de dopage dans les autres sports. Deuxième point, parmi les sports professionnels, c'est le cyclisme qui est arrivé en premier. Hein, c'est un des premiers sports professionnels. Et quand vous prenez La Vie au Grand Air, qui était une revue magazine hebdomadaire des années, fin des années 1890 et jusqu'en 1920 et un peu plus, dans cette revue, quels étaient les sports? Il y avait le cyclisme, l'auto, l'hippisme, les sports athlétiques, c'est-à-dire l'aviron, l'athlétisme, l'escrime, et c'est tout. Le foot, pas une ligne. Les autres sports étaient inconnus. Ça, c'est un premier pas pour bien montrer qu'à cette époque, en 1890, le cyclisme est un des sports phares. Alors, il est un des sports phares pour une raison simple, c'est que la presse a voulu augmenter ses ventes en créant des événements. Et pour que ces événements soient médiatisés, il fallait que ce soit des événements qui dépassent l'entendement humain. Donc, en 1891, on organise Paris-Brest-Paris, 1200 km en enfilade. En 1891, le concurrent organise Bordeaux-Paris, 600 km en enfilade. En 1894, on organise le Bol d'Or, 24 heures d'affilée. En Angleterre également, il y a une course de la Cuca Cup, 24 heures d'affilée. Quelques années avant, parce que la piste a précédé la route. Mmh. Et donc là, on commence la route en 1891. Mais quelques années avant, en 1879, 1880, il y a des 6 jours. Mais des 6 jours comment ? Individuels. Où c'est un seul coureur qui fait les 6 jours. Donc en fait, il ne court pas 24 heures sur 24, mais il court quand même entre 14 et 18 heures par jour. Donc ces gens-là, au bout du 3e jour, ils sont hallucinés. Hein, il y en a un qui cherche son vélo, il l'a sous les fesses. Il y en a un autre qui voit un tramway sur la piste, alors il essaye de l'éviter. Il y en a, etc. Donc ils ont des hallucinations parce qu'on leur donne des produits pour tenir. Et ce sont les soigneurs des hippodromes, parce que le premier sport professionnel, en fait, c'est le sport hippique. Les soigneurs des hippodromes pénètrent les vélodromes et apportent les mêmes produits. Donc dès 1890, la morphine est sur les vélodromes, la cocaïne est sur les vélodromes, le cannabis est sur les vélodromes, la strychnine est sur les vélodromes, la caféine est sur les vélodromes, l'alcool est sur les vélodromes, l'atropine est sur les vélodromes. Donc le dopage, effectivement, démarre dès le début, parce qu'on crée effectivement des épreuves extraordinaires qui sont pas surhumaines, mais qui à l'époque le sont, pour la simple raison que l'entraînement n'est pas adapté à ce genre d'épreuves. Les premiers marathons à pied, 1896, 1900, etc., les concurrents terminent à 4 pattes, s'écroulent à l'arrivée. On a eu en 1908 le vainqueur qui a été disqualifié parce qu'il a fait les derniers 400 mètres à 4 pattes et soutenu par les officiels, Dorando Pietri, en 1908 à Londres. Et il était dopé, bien sûr, mais il n'a pas été disqualifié pour dopage. Il a été disqualifié parce que des officiels l'ont maintenu pour qu'il puisse passer la ligne. Voilà, donc ça c'est le premier point. Alors ensuite, il va arriver à la période des amphétamines. Alors pendant de 1890, 1903, premier Tour de France aux années 40, le dopage existe, mais c'est un dopage anecdotique. Pas qu'il est pris que par quelques-uns, non, tout le monde carbure aussi, mais c'est des dopants peu efficace, à part ceux qui prennent la strychnine, mais la plupart, l'alcool, la cocaïne, tout ça, ils n'en prennent pas des doses énormes. Il y a même déjà la vision du sang, c'est-à-dire on leur donne des produits qui sont censés améliorer le nombre de globules rouges, mais qui n'ont aucune efficacité.
Sans le cheval, c'est des injections de sang,
voilà,
cheval. Ouais.
Pas des injections, parce que là, ça aurait fait des réactions violentes. Non, mais c'est sous forme de comprimés, d'accord, sous forme d'ampoules buvables, donc ils prennent du sang aussi, de cheval, de taureau, etc., de sang de veau, c'est la grande mode dès les années 1910, hein, donc c'est pas récent. De toujours, on a imaginé qu'effectivement le sang allait être la performance dans les sports d'endurance. Après, et à partir des années 50, après la guerre, qu'est-ce qui arrive ? Les amphétamines. Et là, le problème, c'est que ce sont des médicaments qui ont des effets secondaires violents, notamment quand il fait chaud. Et donc, il y a des décès. Et c'est à partir de là où la lutte antidopage va commencer, parce qu'il y a des morts. En 1960 à Rome, aux Jeux Olympiques, un Danois, Knud Enmark Jansen, s'écroule aux 100 km contre la montre. Il est relevé par son entraîneur parce qu'il tombe. On le remet sur le vélo, donc là il est déjà mort, et quelques mètres plus loin il s'écroule définitivement. On l'a pesé avant et à ce moment-là il avait perdu 7 kilos. Donc la déshydratation et la chaleur et les amphétamines font une hyperthermie, un collapsus, et donc il est mort comme ça. Il y a eu Simpson en 67, mais la loi était quand même avant, en 65. Il y a eu d'autres cas de décès par amphétamine à cette époque-là, et donc on a fait une loi, et bien sûr, pendant de 1965 aux années 80, il n'y a qu'un seul sport qui est contrôlé, le cyclisme. Seul sport qui est contrôlé, de 65 à 1980. D'accord ? C'est là effectivement où on va fabriquer la défense du contrôle antidopage. On va professionnaliser les dopeurs. Donc c'est dans le vélo, bien sûr, où il y a eu les dopeurs les plus performants, puisqu'ils devaient lutter contre le contrôle. Première année, premier Tour de France qui est contrôlé en 66, 50% positif. D'accord ? Bien sûr. Ah oui. On n'a pas testé tout le monde. Hein, sur la douzaine de contrôles, 6 étaient positifs, donc 50%. sur l'année 66, 33% des contrôles sont positifs. Donc, ils trouvent la parade. Les sportifs...
En 67, plus personne ne l'est.
Non, ça descend quand même, parce que tout le monde n'est pas aussi gonflé pour tricher au contrôle, etc. Donc, il y en a qui osent pas, ou voilà, et qui se font prendre. Mmh. Et donc, ça tombe à 10. Donc tout de suite, voilà, on vit ça depuis 50 ans, la lutte antidopage. Regardez, on est efficace, on maîtrise le dopage. D'accord? En réalité, qu'est-ce qui s'était passé? C'est que il venait au contrôle avec un flacon d'urine vierge, et il transvasait au moment du contrôle leur urine. Donc, effectivement, ils étaient rarement positifs, sauf un cas anecdotique, mais qui va vous faire sourire et qui est la démonstration de cette pratique. En 69, un coureur qui a priori, et je pèse mes mots, n'a jamais fait une course à jeun, Gerben Karsten, qui était un très bon coureur, mais ne sait pas le dévaloriser, le critiquer, de dire qu'il était OP, puisque les autres faisaient pareil. Mais en tout cas, lui, il n'oubliait jamais. Et en 69, il gagne le Tour de Lombardie, donc c'est un coureur de classique et très très compétent. Il gagne le Tour de Lombardie et patatrac, positif. Alors, il comprend rien, il dit c'est pas possible. Et alors pourquoi il disait c'était pas possible? Parce qu'en fait, il avait pris les urines de son mécanicien, qu'il avait transvasé. Mais le mécanicien, interrogé par lui, lui dit, mais attends, moi pour t'amener de Düsseldorf jusqu'en Lombardie, moi aussi je me suis dopé. Et donc, il a été déclassé pour cette histoire, sur les urines de son mécanicien.
Qui avait pris aussi des amphétamines pour tenir la route.
Complètement,
pour conduire la voiture.
Donc, l'histoire de Karsten. Et donc, petit à petit, les contrôles vont devenir de plus en plus négatifs, puisque les sportifs vont se professionnaliser par rapport aux contrôles. Et en plus, à l'époque, à la fin des années 60, il y a le contrôle antidopage, il ne trouve que les amphétamines. Et il y a plein d'autres substances, déjà indécelables, alors que quand vous entendez Leblanc et compagnie, Jean-Marie Leblanc, que les substances indécelables sont apparues dans les années 90, Jacques Augent, d'autres mémoires du Tour de France, les substances indécelables, ce sont des menteurs, hein, s'il n'y a pas d'autre mot, ce sont des menteurs. Les substances indécelables, elles sont apparues le jour où il y a eu un premier contrôle. Et on revient toujours à la même définition de la pratique dopante, c'est que les dopeurs, les dopés, cherchent des substances indécelables et efficaces. Vous avez un autre exemple encore plus récent, Hamilton, Tyler Hamilton, l'Américain, qui, aux Jeux Olympiques, se fait prendre par la patrouille olympique à la transfusion sanguine homologue, c'est-à-dire avec un sang compatible. Jusque-là...
Juste expliquer la démarche.
Non, la transfusion sanguine, c'est toujours le même principe que le PO, que tous les systèmes pour augmenter le nombre de globules rouges, les anabolisants aussi, augmentent le nombre de globules rouges.
Ce qui permet des meilleurs échanges d'oxygène sans...
Puisque ce sont les globules rouges qui transportent l'oxygène, vous apportez plus d'oxygène à vos muscles, donc ils fonctionnent mieux. Et donc, la transfusion sanguine est revenue à la mode à partir de 2000, car le PO... s'est retrouvé plus difficile à utiliser. Donc, ils ont cherché une technique moins à risque au niveau du contrôle, et donc ils se sont versés dans la transfusion sanguine qu'avait déjà utilisée dans les années 70. Et donc, Tyler Hamilton s'est fait une transfusion sanguine avec un sang homologue, c'est-à-dire d'une personne compatible, il passe au contrôle du CIO, et il est positif. Et alors là, il y a une faute professionnelle, et la personne n'est pas virée, c'est ça qui est scandaleux, au niveau du CIO. C'est que on congèle les urines, et donc on détruit la membrane du globule rouge, et pas avec les conditions voulues, et donc impossible de faire une contre-expertise. Donc il s'en sort. Mais il n'est pas encore averti qu'il est positif aux Jeux Olympiques. Et quelques jours après, il est engagé dans la Tour d'Espagne, à Huelta, et à la suite d'une étape, il est contrôlé, de la même façon, positif, à la transfusion sanguine homologue, et là, la contre-expertise, bien sûr, permet de le confondre, et donc il est positif et déclassé de cette Vuelta. Depuis, plus personne ne s'est fait prendre à la transfusion sanguine homologue.
Ça, comment ils font?
Eh bien, ils sont passés à la transfusion sanguine autologue, c'est-à-dire avec leur propre sang.
D'accord,
c'est-à-dire qu'ils retirent du sang à une période de moindre activité. Pendant cette période où ils ont retiré du sang à peu près entre 500 et 900 millilitres, ils se dopent à l'EPO, pour reconstruire le stock de sang, et en fonction d'une compétition, ils vont se refaire cette transfusion quelques jours ou quelques heures avant la compétition. Et là, il bénéficie d'un dopage qui va durer 3-4 semaines. Donc, indécelable et dopé.
Un gentil docteur, une seringue à la main, disait au coureur, je te shoote pour ton bien. Le sponsor veut que tu sois la diva de tous les temps, mais que tu restes vivant jusqu'à la fin du contrat. Toi le champion, on te tue, car les dieux du stade ont faim. Ils se payent ta vertu, comme un soffre de putain. Ton épouse et tes enfants pleureront sur ton argent, mais tu seras mort par chance en gagnant le Tour de France.
Je ne vais pas passer tous les sports en revue, puisque je vous ai dit dès le départ que c'est la compétition qui génère le dopage, donc il n'y a aucune raison de ne pas en trouver ailleurs. Mais je voudrais parler du football, parce que c'est quand même exemplaire le football. On veut nous faire croire, et le président de la FIFA en tête, et c'est là où c'est scandaleux, que dans le football, le dopage ne sert à rien. Or, à ce jour, aucun des spécialistes qui entourent Blatter peut apporter la preuve que il y a une raison physiologique, métabolique, technique, mentale ou autre qui puisse expliquer que le dopage est inefficace dans le football.
Et par ailleurs, il y a eu des affaires de dopage dans le football reconnues. Donc,
la précision, on nous dit, la précision du geste est perturbée par le dopage. Dans le basket américain, où il faut mettre des ballons à plus de 3 mètres, à 6 mètres des fois dans le panier, ils sont tous à la cocaïne. Si ça empêchait de mettre le panier comme il faut, ça saurait. Dans le tir, on utilise aussi des produits qui améliorent les prestations. Et puis, vous avez... dans le guide du football qui paraît chaque année, qui est signé par Dominique Rocheteau et Dominique Chaumier, qui est le rédacteur en chef de France Football, il y a les 10 points du footballeur de très très haut niveau. Alors les premiers points, c'est un charisme qui lui permet de fédérer les autres joueurs autour de son jeu. Et le troisième, bien avant les qualités spécifiques du footballeur, ce sont des qualités physiques exceptionnelles. Le PO va vous permettre d'être là en deuxième mi-temps alors que les autres sont plus là. Pas sortis du terrain, c'est quand même, ils n'arrivent plus à vous suivre. Les anabolisants vous permettent de battre à la course vos opposants, si vous êtes un attaquant, l'arrière, etc. On va vous permettre de sauter plus haut pour taper de la tête, vont vous permettre de taper plus fort pour tirer au but. Donc, la plupart des dopants peuvent améliorer de façon considérable les footballeurs, donc il n'y a aucune raison que le dopage soit inefficace dans le football. Et pourtant, on est encore en 2006-2007, le président de la FIFA continue à nous sortir des histoires pieuses, il y a des gros, des mecs, des petits, des grands, donc le dopage ne peut pas être efficace sur tout le monde à la fois.
Justement, alors là, on atteint une question qui est quand même extrêmement importante et qui finalement est le versant de tout ce qu'on a dit là jusqu'à maintenant, qui est pourquoi est-ce que on ne lutte pas efficacement contre le dopage?
Ça n'a pas lieu parce que on est dans un système qui est voué à l'échec. Qui lutte contre le dopage? C'est le monde du sport. Est-ce que vous connaissez un patron, un PDG d'une entreprise qui est également délégué syndical? Est-ce que vous connaissez un jury d'assises où c'est la famille qui juge le prévenu? Non. Eh bien, dans le sport, on est dans l'imagerie des gendarmes qui sont dans le même camp que les voleurs, et vice-versa. Donc ça ne peut pas marcher. Tant que la lutte antidopage restera dans le monde du sport, comment voulez-vous qu'un ministère des Sports, un ministre des Sports, soit obligé de faire le grand écart, alors qu'il a déjà dépassé l'âge de le faire, parce qu'à 40 ans c'est difficile de faire le grand écart, et plus. D'un côté, il doit engranger des médailles, pour montrer que la France
est grande,
sport, etc. Et de l'autre côté, il doit empêcher les tricheurs d'aller sur les podiums. C'est mission impossible. Comment on peut imaginer une seconde que ça peut marcher? Et ça existe depuis 1965. Regardez, dans l'affaire du sang contaminé, on a tout de suite intuité qu'il fallait mettre un système de surveillance au-dessus de la transfusion sanguine.
Mais il y en a un aussi sur le dopage en France, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
Jusqu'à présent, il avait aucune... action déterminante, et c'était un rôle de conseil, c'était bien. Maintenant c'est une agence, l'Agence française de lutte antidopage. Le problème, c'est que quand même dans cette agence, qui sélectionne les gens de l'agence? Hein, il faut un représentant du Conseil de l'Ordre, il faut un représentant du... Ils sont spécialistes de quoi? Donc on est toujours dans un système où il faut sortir totalement la lutte antidopage, il faut qu'il y ait un système mondial indépendant, c'est-à-dire pas l'Agence mondiale antidopage, parce que ça n'a rien d'indépendant, puisque c'est la nomination du CIO. Il faut un système mondial indépendant, style OMS, style ONU, mais totalement indépendant. Il faut un laboratoire pilote indépendant qui n'est pas géré à aucun moment par quelqu'un du monde du sport. Voilà, et à partir de là, on va changer. Mais jusqu'à aujourd'hui, tout a été fait pour que ça foire. Rien n'a été fait pour que ça marche.
Mais en même temps, Jean-Pierre de Montnard, ce qui est paradoxal, c'est que depuis le début de cet entretien, vous dites ce qui crée le dopage, c'est la compétition. Mais ça veut dire, si on va jusque-là, c'est que le dopage a quasiment précédé l'existence des fédérations et d'un sport organisé, puisqu'il touche... Donc ce que je veux dire par là, c'est est-ce que finalement c'est pas le dopage qui est consubstantiel au sport?
Oui, non mais la triche aussi est consubstantielle au sport. Le tirage de maillot, les croche-pieds, les crachats, les insultes, etc. Tout ça c'est consubstantiel au sport. Donc il y a des arbitres, on peut mettre la vidéo pour améliorer les choses. À ce moment-là, s'il n'y a plus de règles, hein, parce que c'est ça le problème, l'homme, il est fait pour transgresser les règles. D'accord? Donc, pas vu, pas pris. Donc, ce sont les règles qui sont mal surveillées, mal encadrées. Et à ce moment-là, on voit dans certains sports, il y a 3 arbitres, il y a de la vidéo, etc. Il faut améliorer le contrôle. On a vu dans un marathon en Belgique en 87, où ils ont gagné à 2. C'est-à-dire, un a fait la moitié du parcours, et l'autre la moitié, et il a été débusqué parce qu'il y en a un qui avait une moustache et pas l'autre. Et donc, on l'a débusqué comme ça. Donc la triche est consubstantielle à l'homme, c'est ça. C'est la triche qui est consubstantielle à l'homme. Et donc, si il n'y a pas de règles, il n'y a plus de sport, et moi, je ne fais du sport, quoi, je veux dire, je suis intéressé par regarder du sport que s'il y a des règles. S'il n'y a pas de règles, c'est du spectacle, à ce moment-là,
oui, non, mais,
c'est une autre affaire.
Jean-Pierre de Montnard, je suis d'accord, mais sauf que ce qui est compliqué avec le dopage, c'est, et là on touche une question qui est la question de la limite du dopage, c'est parce que améliorer sa propre performance, après tout, voilà, c'est aussi le but de l'entraînement.
Oui, bien sûr.
Donc voilà, entre entraînement et dopage, puis entre tous ces produits qui certains sont autorisés, d'autres ne le sont pas, certains servent à réparer, d'autres à améliorer strictement la performance. C'est-à-dire qu'on a l'impression que de toute façon qu'on n'en sortira pas dans la mesure où il y a une sorte de rapport intime entre se doper et pratiquer du sport.
Oui. Alors, moi je vois pas les choses comme ça. Moi, c'est l'optimisation du corps, et pas effectivement l'alimentation fait partie de cette optimisation, le repos, la récupération fait partie de cette optimisation, un entraînement adapté fait partie de cette optimisation, mais médicaliser, soigner la performance, là c'est du dopage. À partir du moment où vous soignez la performance, vous donnez les médicaments pour faire des compétitions, vous êtes dans le dopage, quel que soit le produit. Et le meilleur contre-exemple, c'est le monde hippique. Vous savez que depuis, et il a précédé la lutte antidopage de l'homme d'une cinquantaine d'années. Dès 1904, les premiers règlements antidopage, sérieux, parce qu'il y en a eu bien avant, mais en tout cas sérieux, apparaissent en 1904. Le but des législateurs de l'époque, c'est qu'on parie sur les chevaux. Et donc si les chevaux sont truqués, le pari est truqué, et la descendance est également truquée, puisque on vend les saillies sur les performances des chevaux. Donc on va s'intéresser à la descendance des chevaux dès le départ. Chez les hommes, jamais on s'intéressait à la descendance des hommes. Donc les hommes, quand ils parlent, c'est la liberté individuelle, j'ai le droit de me doper, et les enfants, ils ont le droit de déguster de ce qu'il a pris. Ça, jamais personne n'en parle. Et dès le départ, dans la lutte antidopage, les choses sont claires. Il n'y a jamais de débat éthique. Un cheval, blessé ou malade, ne court pas. Un cheval ne doit courir que s'il n'a aucun médicament dans son corps. Donc là, on respecte le cheval. Regardez le nombre d'hommes qu'on envoie jouer, picouser de partout, pour aller jouer un match.
Want to hang out.
faut quand même rappeler qu'au départ, le mot dopage se définit pas d'améliorer la performance. Il définit le moyen d'annuler la performance de l'adversaire, de faire baisser la performance de l'adversaire. C'est le dopage Toulouse, pas la ville de Toulouse. Théo, plus loin, L-O-S-E. C'est-à-dire pour perdre. Et si vous prenez les ouvrages de boxe de 1890-1900, le nombre de boxeurs qui ont été battus parce qu'on leur a salé la soupe, parce qu'on leur a mis un produit, donc l'adversaire mettait sur ses gants de l'atropine qui lui fermait l'œil, donc l'autre il voyait plus rien, etc.
Donc en empoisonnement, quoi.
Oui, ouais. Mais ça existe encore. Regardez, il y a eu une finale de, je sais pas si c'est 95 ou 99, de rugby entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, où la Nouvelle-Zélande a accusé quelqu'un, sans dire que c'était l'Afrique du Sud, qui avait salé leur soupe, qui avait mis un produit anesthésiant, calmant, dans leur bouteille d'eau. Avec Marseille, il y a eu des tas d'affaires de saler la soupe de l'adversaire contre le CSA Moscou, contre Rennes, des oranges soporifiques, etc. Il y a eu des tas d'affaires qui sont même racontées dans le bouquin de Sailly, où c'était une hantise, donc l'inverse. Tapis surveillait en permanence, il y avait deux hommes de Tapis qui surveillaient en permanence les bouteilles de l'équipe de l'OM pour vérifier qu'il n'y avait pas un trou dedans, que quelqu'un avait mis quelque chose pour les faire perdre. Donc le dopage au départ, c'était un dopage négatif. Et puis très rapidement, effectivement, il a changé de camp et il est devenu un dopage positif. Et encore un autre élément qui est peu connu, c'est que la première loi antidopage en France, parce qu'en fait la première loi est en Belgique, elle a précédé celle de la France en avril 65 et la France était le 1er juin 65, et c'est pas une loi antidopage, contrairement à ce que tout le monde raconte. La loi, c'est la loi anti-stimulant. Car à l'époque, on ne considère le dopage que sous sa forme de stimulant. Les bêta-bloquants, les anabolisants, tout ça, ça fait partie du dopage. Si vous prenez les rapports des congrès des années 60, il y a même des publicités d'anabolisants dans les revues médicales de médecine du sport. La revue de la Société française de médecine du sport comporte des publicités de nandrolone, disant donc aux médecins du sport, prescrivez de la nandrolone à vos sportifs, alors qu'il y a 80 pages dans le même journal qui luttent contre le dopage. Car à l'époque, pour la confrérie scientifique internationale, les anabolisants sont des vitamines. Oui, donc, et après, 30 ans après, on sait que les vitamines en question, ça donne des cancers de la prostate, des cancers du rein, des cancers du foie, etc., des artéries, des amputations, et ça entraîne ce qui était déjà marqué dans la publicité à cette époque-là, mais qui va être ignoré pendant 20 ans ensuite, des effets psychotoniques. Ça rend hyper violent. Ça rend hyper violent, on appelle ça la rage des stéroïdes. Voilà, donc tout ça montre bien que les gens qui luttent contre le dopage, ils sont pas à la hauteur de ceux qui sont dans le camp du dopage.
Mais ça veut dire que le dopage, la recherche de produits, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne ça? Est-ce que c'est une sorte de pragmatique, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en mettant un peu de ça, puis un peu de ça, comme le fameux pot belge, quoi, c'est-à-dire qu'on fout un peu de cocaïne, un peu de machin, un peu de truc, et puis on obtient quelque chose qui fonctionne? Ou est-ce que c'est fait dans des labos, par des gens qui travaillent vraiment pour ça? Parce que c'est ce qu'on a du mal à comprendre. Alors j'imagine encore une fois, vous allez me répondre, mais ça dépend des cas. Mais je reviens à ça parce qu'on avait l'exemple qui était quand même absolument incroyable en Allemagne de l'Est, par exemple, où il y avait cette espèce d'immeuble où il y avait un étage qui participait à la lutte anti-dopage avec le comité international olympique, et puis l'étage du dessous qui lui organisait le dopage des sportifs, donc qui se, pardonnez-moi les tout ça, mais ils se tiraient la bourre l'un et l'autre, mais enfin tout ça profitait largement à l'Allemagne de l'Est de toute façon.
Pas vraiment la bourre, parce que c'est le patron des deux labos, c'était le même.
Oui, non, parce que j'ai tiré la bourre, ils s'amusaient, quoi.
D'accord.
On fait ça, est-ce que vous arrivez à le détecter? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que comment, enfin voilà, ce truc des produits, d'aller chercher ça plutôt que ça, d'aller chercher des produits animaux, comment ça ça s'organise?
Alors, sur l'histoire du pot belge, c'est pas qu'on a mis des ingrédients ensemble comme ça et qu'on a constaté que c'est efficace, c'est que à la fin des années 70, il n'y a plus d'amphétamines sur le marché. Et les amphétamines sont très ont toujours été très utilisées dans le monde du sport, et notamment dans le vélo. Et donc il y a des pays de l'Est qui ont trouvé ce moyen de faire pénétrer dans les pays d'Europe des amphétamines sans appellation contrôlée. Et donc dedans, et pour rendre accro les sportifs, eh bien effectivement ils ajoutaient des choses variées et multiples, mais généralement c'était surtout des amphétamines qui étaient dans ce pot, et on ajoutait un peu de cocaïne, un peu de ceci, un peu de cela, mais la base du pot belge, ce sont les amphétamines. When I put a spike into my vein, then I tell you things aren't quite the same. Il y a aussi l'aspect festif, parce que les amphétamines, ça participe à la fête. Alors il y a aussi un élément qui n'est pas connu, c'est que si vous prenez les amphétamines tout seul devant votre télé, ça va avoir des effets petits. Si vous les prenez en réunion, l'effet est multiplié par 10.
Comme l'ecstasy.
Voilà, dans une équipe de football, l'effet des amphétamines n'est pas le même que si vous prenez individuellement.
C'est intéressant parce que finalement vous comparez ça à une conduite qui est une conduite toxicomane.
Oui, bien sûr, mais ce sont les mêmes produits. D'ailleurs, ces produits-là existaient dans le sport avant d'exister pour les paradis artificiels. Les amphétamines, elles ont d'abord pénétré le sport, la guerre.
D'abord la guerre, ensuite le sport,
voilà,
et ensuite
exactement. Les anabolisants aussi sont apparus juste, la testostérone est apparue juste avant la guerre de 40. Elle est utilisée dans le sport et puis elle s'est répandue à tout va, et puis même utilisée en dehors du sport, et dans les salles de remise en forme, etc. Les gens qui veulent présenter bien, être en forme, et puis c'est un psychostimulant, la testostérone, donc on sent la pêche. Au niveau sexuel, c'est extraordinaire, etc., dans un premier temps. Alors pour répondre quand même à la suite de votre question par rapport aux produits qui sont fabriqués, est-ce qu'il y a des produits fabriqués spécifiquement pour le dopage?
Ouais.
Alors en réalité, la quasi-totalité, à part quelques exceptions, ce sont des produits détournés de leur usage thérapeutique. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend un produit mythique comme l'EPO, l'érythropoïétine, qui améliore le transport de l'oxygène en multipliant les globules rouges, a d'abord été mis au point pour les insuffisants rénaux, donc qui ont un rein qui fonctionne plus, donc qui produit plus d'EPO, donc il est anémique, et donc il est faible. Donc pour les aider à être beaucoup plus en forme et avoir moins de dialyse, l'EPO a révolutionné le traitement de l'insuffisance rénale. Également dans les traitements de cancéreux, de chimiothérapie, il y a une attaque des globules rouges qui disparaissent, et donc il y a une anémie, et donc là aussi ça va aider considérablement toutes ces pathologies chroniques où on envoie des traitements lourds qui déglinguent entre guillemets l'organisme.
Mais qui organise ce transfert entre des pratiques thérapeutiques et des pratiques dopantes?
Voilà. Il y a des médecins et des sportifs aussi, alors dans le cas de l'EPO c'est plutôt des médecins, qui les ont utilisés pour traiter des sportifs en état d'infériorité momentanée pour des pathologies de ce type, et qui ont constaté qu'effectivement ça améliorait, les sportifs les premiers, ont constaté que ça améliorait considérablement leur performance, et donc voilà comment on découvre qu'un produit est parfaitement efficace dans le sport. Vous avez un autre exemple, le clenbutérol, qui est un anabolisant, et pas un stéroïde anabolisant comme on le lit partout dans l'équipe en premier. Ce qui est faux, c'est qu'il n'a rien à voir avec un stéroïde anabolisant. C'est un anabolisant non hormonal. Le clenbutérol, qui est un bêta-stimulant, c'est-à-dire proche parent du salbutamol, c'est-à-dire le fameux produit pour l'asthme,
Ventoline. La Ventoline, ouais.
Et donc ce clenbutérol, ce sont des sportifs qui avaient des relations avec le milieu vétérinaire, donc hippiques, et qui ont appris que des veaux traités pour des pathologies respiratoires au clenbutérol prenaient 50 kilos en quelques semaines. Donc, voilà comment on a découvert que le clenbutérol pouvait aider les sportifs. Et c'est dans les années 90 où des athlètes de course à pied ont commencé à utiliser le clenbutérol, même un peu avant, et les contrôles sont apparus beaucoup plus tard. Et puis, si vous lisez régulièrement les témoignages de sportifs, ils vous apprennent qu'ils ont tous le Vidal, c'est-à-dire la bible des médicaments, et quel que soit le sport, en athlétisme, en cyclisme, en football, ils ont le Vidal sur la table de nuit, et le soir avant de s'en coucher, quand ils n'avaient pas à s'endormir après avoir pris des amphétamines, ils feuillettent le Vidal, et tout ce qui est anti-asthénique, défatigant, améliorant la récupération, psychotonique, etc. Ils essayent. Et même, il y a des histoires drôles qui datent des années 50 où certains cyclistes expérimentaient les produits sur leur poisson rouge et quand notamment, certains ont raconté qu'ils avaient donné ça à leur poisson rouge, et quand le poisson rouge se retrouvait sur le dos quelques heures plus tard, ils voyaient que c'était efficace, donc ils le prenaient.
I just feel black upon ya. Hey Bamba, hey Jastard,
hey Side 9,
hey Grey Steel. So I'm good, it's like a grizzly a folly and I'm smoke off a collie, it's a mash shit grizzly, mash it.
Envie de protéger le sport ou votre envie de protéger le sportif? Quelle est la part de l'un et de l'autre?
Non, j'ai évolué depuis les années 70. Au départ, effectivement, j'étais plus jeune et plus enthousiaste et plus idéaliste. Et donc, je me suis rendu compte rapidement que le milieu était contaminé de façon copieuse.
Quand vous-même, vous en faisiez partie de ce milieu,
voilà, exactement,
puisque vous étiez médecin sportif du tout.
Et donc j'ai rapidement réagi en dénonçant la mascarade de faire croire que tout était beau dans un monde idyllique et qu'en réalité le dopage était présent et que les produits dopants étant dangereux, et notamment par rapport à l'effort, parce que ça aussi c'est une notion qui est rarement mise en avant, c'est que souvent les sportifs, pour accréditer la thèse que eux ils sont mis à part de la société, ils disent, regardez les PDG, eux, ils ont un conseil d'administration, ils sont pas bien, ils vont voir leur médecin qui va leur donner un truc, et ils vont aller à leur conseil d'administration, et personne va avoir à y redire quelque chose. Et nous, on peut pas faire notre métier normalement quand on est fatigué, quand on est ceci, cela. Alors, ça ne peut pas marcher, cette comparaison, car il y a toujours un élément qui est pas le même dans la comparaison. C'est que si vous prenez des amphétamines, on va prendre un exemple facile, les amphétamines, dans les années 70, Jean-Paul Sartre consommait, qui n'est pas sportif, consommait 20 comprimés de coridrane, une amphétamine associée à de l'aspirine, par jour. Il a vécu jusqu'à 75 ans, ce qui est la longévité moyenne de l'époque. Il n'avait comme effort à faire que d'aller à sa cafetière, puisqu'il buvait aussi beaucoup de café, que d'aller chez le buraliste chercher son paquet de tabac, car il fumait également, ou se lever de temps en temps de son siège pour prendre un dictionnaire pour vérifier un mot.
Oh, il faisait l'amour, il marchait.
Voilà. Ce ne sont pas des efforts quand on sait qu'un acte sexuel, ça consomme 6 calories, c'est quand même pas très bon, très très important. Donc, si vous donnez les mêmes 20 comprimés de coridrane à un coureur qui va s'appuyer le ventoux, au minimum, il est en réanimation, au maximum, il est à la morgue. Donc, ce n'est pas acceptable de comparer l'incomparable, puisque le médicament associé à l'effort physique potentialise les effets secondaires du binôme. Vous allez avoir ça crée une hyperthermie. L'amphétamine crée une hyperthermie. L'effort physique, c'est une hyperthermie. La chaleur, c'est une hyperthermie. Et donc, vous avez tous les ingrédients pour y laisser votre santé dans ce genre d'aventure.
Donc, il faut protéger les sportifs plus que les autres. Donc, c'est pas pour rien qu'on leur demande d'être plus propres que n'importe qui d'autre.
Bien sûr, puisqu'il y a un risque majoré de l'effort physique avec le médicament.
Et est-ce que vous regardez beaucoup le sport à la télévision? Est-ce que vous lisez l'équipe? Est-ce que vous suivez l'actualité sportive? Est-ce que vous arrivez encore à avoir une sorte de regard émerveillé ou admiratif pour un geste, une performance?
Non, je regarde le sport pour des raisons professionnelles, parce que pour pouvoir le décoder, il faut quand même que je sache de quoi, qu'est-ce qu'on nous raconte. Donc je lis l'équipe pour avoir les affaires de dopage, en tout cas un point de vue. Je lis différents journaux, je regarde les matchs, mais vraiment beaucoup moins qu'avant. Je me souviens quand je regardais le tournoi des Cinq Nations dans les années, milieu des années 60, hein, on n'était pas nombreux, j'avais des pulsations qui augmentaient. Aujourd'hui, elles bougent pas d'un point les pulsations quand je regarde le sport. J'ai plus effectivement la même vision. Je les prends pas pour des surhommes. Ça, c'est effectivement l'erreur numéro un, c'est de croire que les sportifs sont des surhommes. Hein, ils sont plus entraînés que la majorité des gens. Voilà, c'est surtout ça la principale différence. Et je regarde le sport parce que je suis très sportif. J'ai quand même fait 14 000 km dans l'année à vélo. Je suis très sportif. Voilà. Et je monte des cols, c'est ma passion, monter des cols en long, en large, en travers. D'ailleurs, cet été, j'ai fait une grande partie de l'étape de Landis où il a mis tout le monde à près de 10 minutes.
Sans rien prendre, Jean-Pierre de Monard, vous le jurez.
Non, c'est pas une histoire de jurer ni rien du tout. Je veux dire, ça ne m'effleure pas une seconde l'esprit. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de sentir son corps qui fonctionne et qui répond à la volonté.
Et parce que vous n'avez personne à battre.
Oui, moi. Si. Parce que là aussi, je l'ai pas dit de tout, c'est un exploit. C'est que depuis qu'on a commencé l'entretien, j'ai dit souvent qu'effectivement le dopage était lié à la compétition. Mais c'est pas que la compétition par rapport aux autres. La compétition par rapport à soi génère du dopage. Une étude remarquable a été effectuée en 93 en Autriche par une équipe dirigée par Rogla, et ils ont testé des montagnards qui passaient dans cette montagne qui faisait 3700 mètres d'altitude à trois niveaux. Donc ils ont fait pisser, c'est comme ça qu'on dit techniquement, 250 personnes réparties à peu près de façon équivalente, et ils ont testé donc à 2500 mètres, à 3300 mètres et au sommet, et ils ont testé qu'un produit, les amphétamines, car il faut savoir que les amphétamines ont une tradition en montagne, ça fait très longtemps que c'est utilisé, et d'ailleurs je vais pas faire plaisir à Maurice Herzog, mais les 14 8000 ont été vaincus par des amphétaminés. Et tous les rapports d'expédition en témoignent, c'est pas moi qui le dis. Et donc, on teste les amphétamines, alors que les corticoïdes servent aussi pour se doper en montagne, les anabolisants servent aussi pour se doper en montagne, il y a d'autres produits qui sont utilisés, qui n'ont pas été testés, l'EPO en particulier, qui n'a pas été testé, parce qu'à l'époque on ne la trouvait pas. Donc on teste les amphétamines. Jusqu'à 2500 mètres, tout le monde est négatif. À 3300 mètres, 2,7% sont positifs aux amphétamines, et au sommet, 7,1% sont positifs aux amphétamines.
C'est que ça absorbe au fur et à mesure?
Au sommet, il y a... c'est-à-dire qu'ils ont testé à 2500 mètres que des gens qui arrêtaient.
D'accord. Voilà. Ils testent les gens qui arrêtent, d'accord.
Voilà, qui arrêtaient à 2500 mètres, ceux qui sont allés à 3300 mètres, et ceux qui sont, ils sont pas dopés dans l'intervalle.
D'accord. Voilà.
Donc, au sommet, il n'y a ni le 20h en direct avec Pauvre d'Arbor, il n'y a ni médaille, ni chèque, ni Chirin qui donne la Légion d'honneur. Il y a que le lundi, si on est le dimanche, au bureau, qui va pouvoir se vanter et dire j'ai battu mon record de la semaine d'avant, j'ai tapé dans les 200 derniers mètres Pierre, Paul, Jacques. Voilà, c'est par rapport à soi. Donc le dopage par rapport à soi existe bien sûr. Et dans les épreuves de masse, quand on s'amuse à faire des contrôles, on trouve des positifs, alors qu'ils ont rien à gagner, la plupart. Ils ont même à gagner tout juste une médaille, et c'est même pas sûr.
Bon, Jean-Pierre de Montenard, merci beaucoup. Vous nous avez profondément déprimés, mais en même temps instruits.
The world is too...